La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Green Solution. Je suis ravie de vous retrouver sur notre antenne. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux intervenants. Tout d'abord, David Rosan-Vallon, directeur général adjoint chez Famille et Provence. Bonjour.
Bonjour.
Et à côté de vous se trouve, enfin dans une salle juste à côté, se trouve Gabriel Rénal. Bonjour.
Bonjour.
Bureau d'études, domaine assistant, maître d'ouvrage pour la qualité environnementale sur le projet. Le projet, justement, dont on va parler aujourd'hui, c'est le projet de l'opération de réhabilitation de 10 résidences dans le quartier du Jas de Bouffan à Aix-en-Provence. Justement, alors avant de parler de ce projet, de nous le présenter, est-ce que, David, vous pouvez nous présenter votre société Famille et Provence ?
Oui, bien sûr. Donc, Famille et Provence est un bailleur social qui appartient au groupe Habitat en Région. Habitat en Région étant le regroupement de tous les bailleurs sociaux de France, dont l'actionnaire majoritaire est le groupe BPCE, donc la Caisse d'épargne. Nous sommes au sein d'une société anonyme de coordination qui est la déclinaison locale du groupe Habitat en Région. Donc sur le sud-est, et donc Famille et Provence est propriétaire et gestionnaire aujourd'hui de 8400 logements répartis sur 3 départements, les Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence et le Vaucluse, avec une majorité sur les Bouches-du-Rhône, à peu près 90% de notre patrimoine. Nous développons et proposons différentes solutions d'habitat, que ce soit du locatif, de l'accession sociale, de l'habitat inclusif. Et donc ça, c'est sur la part développement pour 200 à 250 logements environ par an. Et en même temps, évidemment, nous sommes très attentifs à notre patrimoine existant pour lequel nous réalisons un certain nombre de réhabilitations, soit thématiques, soit plus globales et générales, comme ça a été le cas pour les 733 de logements du Jas de Bouffan à Aix-en-Provence.
Alors justement, cette rénovation durable, donc non négligeable, hein, 733 logements, vous pouvez nous en dire un peu plus, comment ce projet a vu le jour ?
Alors ce projet est issu d'abord d'une stratégie globale de notre société pour identifier les patrimoines qui méritent et qui méritaient, lorsqu'on a organisé et structuré tout cela en 2007 et plus précisément ensuite en 2011 pour le Jas de Bouffan, cette opération, en tout cas cette résidence de 733 logements. Alors on dit résidence parce que pour nous c'est un seul ensemble immobilier, mais en fait ça regroupe 10 résidences.
Oui, c'est plusieurs bâtiments.
Et 17 bâtiments. Oui. Voilà, 17 bâtiments, mais c'est pour nous ce qui s'appelle la résidence Le Jas de Bouffan. Donc une stratégie de 2007 à 2011 qui a indiqué les patrimoines sur lesquels nous devions intervenir pour en améliorer différentes problématiques, que ce soit les pathologies techniques, que ce soit l'attractivité, mais évidemment l'aspect énergétique, ce qui en 2011 n'était pas, on va dire, aussi prégnant que ce que l'on peut entendre aujourd'hui.
Oui, parce que juste l'année de construction, donc c'est 1975, hein,
c'est un patrimoine qui date des années 60-75 et donc qui était, on va dire, avec de l'industrialisation, c'est-à-dire des panneaux préfabriqués, assemblés les uns sur les autres pour pouvoir construire assez rapidement et proposer de l'habitat dans ce quartier.
Et alors justement, comment est-ce que c'est facile, j'imagine non, de rénover, d'innover justement un bâtiment qui date de 75? Quelles sont les solutions justement?
Alors sur les aspects techniques, pas trop de difficultés parce que c'est assez connu comment on peut améliorer et résoudre les pathologies techniques ou les problématiques énergétiques. La grande difficulté, le défi sur ce patrimoine, c'était effectivement la grandeur de l'opération, 733 logements qui sont pas tous côte à côte, hein, c'est 10 résidences un peu réparties dans un quartier, et donc il a fallu surtout structurer et organiser le, on va dire le, la réhabilitation de ce projet. Et on est parti pour cela, d'abord en se faisant assister. C'est pour ça que Gabriel Reynal nous a accompagnés depuis le début avec son bureau d'études pour nous accompagner sur une vision globale de nos besoins et de la façon de faire évoluer ce patrimoine. Ça nous a permis de faire intervenir des prestataires comme le CPIE qui ont contribué à une étude socio-énergétique d'un certain nombre de familles pour connaître un peu leurs problématiques à la fois dans l'habitat mais aussi sur leurs difficultés à assumer les charges énergétiques. Et ces éléments-là, plus on va dire tous les diagnostics techniques qui ont été faits, ont permis ensuite de définir un mode de fonctionnement de l'opération en conception-réalisation. C'est-à-dire que ça, c'était assez innovant pour 2011. On a d'abord défini tous les constats, toutes les difficultés, là où on voulait arriver, quelle amélioration nous voulions apporter, mais on ne savait pas comment y arriver et les différentes solutions possibles. Donc c'est pour ça qu'on a lancé un marché de conception-réalisation avec surtout un dialogue compétitif, c'est-à-dire qu'on a mis en consultation un programme global, un programme fonctionnel hein, qui a balayé toutes les difficultés techniques, architecturales, la requalification des espaces extérieurs, l'iniquité bioclimatique, mais aussi comment on intervenait sur la sensibilisation des locataires. Et on a mis ça en concurrence auprès d'opérateurs économiques constitués par une entreprise, un architecte et un bureau d'études. Et sur la base de cette mise en concurrence, on a retenu un projet après un dialogue.
D'accord. Et alors, juste moi, voilà, j'avais une question. Permettez-moi de vous couper. Faut combien de temps en fait pour avant de commencer réellement, justement pour définir les solutions, pour imaginer ensemble avec le bureau d'études, combien de temps ça prend avant de commencer vraiment les travaux?
C'est une des difficultés. Je vous l'ai dit, ce projet, il a été initié en 2011 dans la réflexion, c'est-à-dire à partir du moment où en interne au sein de Famille et Provence, on s'est mobilisé pour travailler sur ce dossier. Le chantier a commencé en 2016.
Oui, donc c'est 5 ans.
Il s'est passé 5 ans. Ce n'est pas le timing habituel, c'est la grandeur de l'opération
qui était exceptionnelle,
qui a nécessité tout cela, plus un peu le côté innovant de sa structuration, qui quand on apprend, ben évidemment, on met un peu plus de temps que quand on sait. Et donc c'est aussi parce qu'on a souhaité quand même avoir une approche vis-à-vis de nos habitants et prendre le temps de les rencontrer, de comprendre quelles étaient leurs attentes. Et donc ces diagnostics, notamment socio-énergétiques, ont nécessité d'aller à la rencontre d'un certain nombre de locataires que l'on a définis pour certains d'entre eux, et notamment 54, qui sont devenus nos ambassadeurs énergétiques. Comme parmi les enjeux de cette réhabilitation, il y avait un enjeu de performance énergétique, mais un enjeu surtout de gains énergétiques avérés, pas simplement théoriques, c'est-à-dire pas simplement sur le résultat d'un logiciel qui rentre des données avant travaux et après travaux, mais sur une analyse des réelles factures de nos locataires, sachant que c'est du chauffage individuel, une complexité supplémentaire, hein, puisque ça veut dire que chacun avait son propre fournisseur d'énergie. Donc, on a analysé les factures de chaque locataire avant travaux et on les a regardées après travaux, ce qui nous a permis de nous conforter dans l'objectif qu'on s'était fixé.
Et du coup, vous êtes parvenu à un gain global énergétique supérieur à 60% pour le chauffage et les consommations des parties communes, hein, ventilation et éclairage. Quelles solutions et innovations vous avez proposées justement dans ce projet pour aboutir à cela?
Alors sur les solutions techniques et sur les équipements techniques, on a remplacé les équipements de production, c'est-à-dire les chaudières, les émetteurs de chauffage, la façon de piloter ce chauffage, donc les radiateurs, les thermostats. On a changé la ventilation, on a changé l'éclairage des parties communes et on s'était fixé effectivement comme objectif contractuel pour le groupement d'opérateurs économiques à 40%. Et grâce à ce suivi énergétique, on est arrivé et on s'est aperçu qu'on était plutôt à 60% de gains. Donc une vraie satisfaction.
Une vraie surprise.
Et ce qui a été plutôt la réussite et la solution, c'est pas tant les solutions techniques que l'on connaît, puisqu'on a aussi isolé par l'extérieur les façades, on a aussi isolé les toitures, etc., etc., isolé les vitres sanitaires. Tout ça, ce sont des solutions techniques assez connues. C'est surtout tout l'accompagnement et la sensibilisation aux locataires.
Justement, c'est
un des enjeux.
J'allais vous demander.
Un des enjeux importants du projet.
Ouais, comment on prit, comment les locataires l'ont pris, parce que ça a duré 3 ans, c'était des travaux importants. Comment ils l'ont pris en fait, les locataires?
Ils l'ont pris avec. C'est une des difficultés hein, quand vous avez effectivement 5 ans d'attente avant de voir les premiers travaux et que vous leur annoncez une réhabilitation. C'est aussi ça ce que l'on a pu apprendre à travers cette opération, c'est qu'il faut quand même pas hésiter à leur annoncer qu'on va faire des choses, parce que parfois on préfère le dire juste à la fin pour pas trop leur créer d'attente. Il faut trouver le bon moment, c'est-à-dire qu'il faut savoir. C'est un peu du teasing hein, quelque part en disant ben voilà on va faire ça, mais sachez qu'il y a tous ces diagnostics à faire. On va revenir vous voir. Après, c'est une présence un peu plus importante chaque année, c'est-à-dire qu'ils ont la gestion de proximité, hein, nos gestionnaires d'immeubles qui sont présents, mais de voir des équipes de maîtrise d'ouvrage investir davantage le terrain, ça les fait un peu patienter. Et puis, ils ont pris cette réhabilitation comme évidemment avec un vrai plaisir et une vraie satisfaction. Mais d'autant plus que on a pris le temps de discuter avec eux. Voilà, bien on sûr. Leur a pas livré un bâtiment réhabilité en disant bon ben voilà on a fait ce que vous demandiez, maintenant débrouillez-vous. C'était pas du tout la façon de fonctionner.
Donc la communication est très importante. Gabriel Rénal, comment a été assurée l'équité bioclimatique entre les différents logements?
Oui, alors ça, c'est un sujet qui est apparu dans le premier audit global qui a été réalisé par un groupement piloté par Robert Seller, ingénieur conseil sur les questions bioclimatiques, qui a identifié une disparité dans le patrimoine de confort global. Donc, il avait qualifié et quantifié logement par logement, étage par étage, orientation par orientation, les avantages et les inconvénients de chaque logement et créer une sorte de notation. Et dans le programme qu'on a confié aux opérateurs économiques dans le cadre du dialogue, on leur a demandé de traiter et de réduire cet écart de logement à logement. Et ça s'est traduit, type d'exemple, par une des craintes dans le confort global des locataires à rez-de-chaussée, c'était l'intrusion. Donc la protection solaire devait aussi faire fonction d'anti-intrusion. Pour typiquement tous les logements dont les loggias, les petites terrasses, là, étaient exposés au mistral, qui est un vent assez violent et qui avait des joues qui étaient percées. Ces joues ont été comblées. Quand il y avait un problème de co-visibilité, de manque d'intimité, des brises ont été posées. Les brises-soleil ont été traitées différemment selon les orientations et tout un tas d'apports complémentaires comme ça pour conserver les vues lointaines, pour conserver la lumière naturelle dans les logements. Tout un tas de sujets ont été traités de manière globale pour permettre au logement, si vous voulez, un locataire du rez-de-chaussée de se sentir aussi bien loti, logé que un locataire à un étage courant, plein sud, etc. Donc cette réduction des écarts, elle était essentielle parce qu'il fallait répondre aussi à une diversité aussi de requêtes qui n'étaient pas les mêmes en termes de ressenti du confort global. Et l'autre sujet, c'était par cet axe-là. Répondre à ces questions de précarité énergétique et de réduction de la facture énergétique, mais ne pas mépriser ou maltraiter le confort d'été, qui est un vrai sujet dans nos contrées du Sud.
Bien sûr.
Et donc, il était attendu de prendre en considération cet aspect-là et de permettre à chaque locataire de pouvoir conserver un bon confort d'été, ce qui a aussi été mesuré dans le cadre de l'opération. Et ce confort d'été n'a pas du tout été dégradé.
C'est quoi ces conforts d'été, ces ventilations?
Alors le confort d'été, il est permis dans ces logements par 3 principes principaux. Donc d'une part, il y a l'isolation des façades par l'extérieur qui réduit la charge thermique que l'on a sur ces façades quand elles prennent le soleil toute la journée, des parois intérieures, donc elles restent quand même à température ambiante plus modérée. Ensuite, il y a les protections solaires. Il y a 2 sujets sur ce patrimoine. Ce sont la mise en œuvre de volets à projection. C'est-à-dire qu'on peut, comme les logements sont quand même beaucoup occupés la journée, il y a quand même beaucoup de gens qui vivent chez eux en journée, On peut pas demander aux gens de vivre dans l'obscurité totale. Bien donc, le volet se projette à l'italienne et permet d'être donc de maintenir la protection de tout vitrage tout en conservant de la lumière naturelle. Et un des troisièmes aspects, c'était l'apport de protection solaire qui n'existait pas, qui sont des claustras coulissantes avec des différences de variations d'inclinaison des dentelles selon les orientations sur les loggias des logements. L'autre aspect très important dans ce projet, c'est qu'il y a eu un gros volet végétal, avec un grand traitement paysager et urbain de tout cet ensemble. Et que le maintien d'une forte végétalisation et notamment la mise à distance de toutes les voitures depuis les pieds de façade, la végétalisation de tous les pieds de façade contribue aussi au confort thermique des abords du bâtiment.
Oui, oui, d'accord. Oui, en fait, ce qui me frappe, c'est vraiment que vous avez pris en considération chaque mode de vie en fait de chacun de ses habitants. Et du coup, c'est non négligeable comme travail.
Oui, c'est même un énorme travail qu'on ne peut pas sous-estimer si on peut s'y lancer.
Oui. Vous nous avez expliqué donc l'avant, le pendant. On va parler de l'après dans quelques instants. Juste, ce projet, est-ce qu'il est facilement réplicable, cet immense projet ?
Facilement, je pense que... je pense que la première clé d'entrée, c'est la posture du maître d'ouvrage et du bailleur. Et oui. Tous les bailleurs n'ont pas forcément cette approche. Je pense que, moi, je peux me permettre de le dire. Peut-être que David ne l'autorisera pas.
Je te laisse la parole, c'est pas pour bien faire.
Mais si, c'est une clé importante puisque c'est tout le ton de l'opération est donné par le maître d'ouvrage.
Bien sûr.
Et la relation au locataire, elle est d'abord avec son bailleur. Elle n'est pas avec des prestataires qui viennent le temps d'une opération. Et pour qu'elle soit pérenne et dans la continuité, il faut que le bailleur se saisisse de ces sujets-là et prenne le temps. Ça prend du temps, y compris dans le travail en interne, je pense. Moi, ça, David peut pouvoir mieux l'expliquer.
David, du coup.
Oui, c'est ce projet, oui, il y a un certain nombre d'éléments que l'on peut dupliquer, même si les contextes sont toujours différents. Bien évidemment, sur tous les aspects techniques et les solutions techniques, celles-là, de fait, on les réplique, on les duplique parce qu'elles sont assez connues. Mais c'est surtout cette approche socio-énergétique, cette approche des locataires qui permet d'ajuster et d'adapter, on va dire, nos intentions de gestionnaire de patrimoine pour faire améliorer ce patrimoine. Il ne faut pas oublier l'habitant. Et donc... à condition d'être toujours dans cette intention d'aller à la rencontre, d'identifier leurs besoins au-delà des propres, au-delà de nous, les besoins que l'on connaît, tout ça permet de contribuer à réussir une réhabilitation de cette ampleur. Ce que l'on reconduit aujourd'hui sur d'autres projets, parce qu'évidemment depuis nous en avons produit d'autres et on en produit encore d'autres.
J'imagine.
Le montage opérationnel déjà, qui était pour nous à l'époque innovant, cette notion de conception-réalisation, c'était un peu tout nouveau, nouveau ou presque. Et aujourd'hui, ça devient assez courant. Et comme c'est beaucoup plus répandu, ça veut dire qu'aussi on travaille chaque fois sur un programme beaucoup plus global et pas simplement un programme technique. Oui. Parce que si on a une approche que technique, on n'apporte qu'une réponse technique. Et si on veut avoir une satisfaction des locataires, elle ne peut passer que par une réponse technique. Ça, c'est vraiment l'enseignement que l'on retire. Les retours, c'est parce que...
Et alors justement, j'allais vous demander les retours.
Cette réalisation a été réussie. Voilà.
Les retours d'expérience.
Les retours, très clairement, le retour d'expérience sur cette réhabilitation, déjà, il se mesure par un indicateur que nous regardons chaque année, c'est l'enquête de satisfaction auprès des locataires. Nous enquêtons nos locataires de tout notre parc chaque année via un questionnaire, selon un échantillon représentatif, etc., etc. Sur le Jas de Bouffan, globalement, c'était un patrimoine qui était noté entre 75 et 80% de personnes satisfaites. Après la réhabilitation, on est monté à 95%.
D'accord.
95%. Oui. Quand vous avez, la dernière enquête qui date de l'année dernière, c'est 95%.
Donc c'est très clair.
Et l'année dernière, ça fait déjà 2 ans qu'on a terminé la réhabilitation. Voilà, quand vous avez un critère comme celui-là, même si c'est de l'échantillonnage, on peut dire qu'on a plutôt pas mal réussi le truc. Oui. Et puis après, c'est surtout quand vous allez sur site, Quand, je ne sais pas si on est fiers de vous, on est surtout content pour nos habitants, c'est ça le plus important. Et quand on va sur le site, on est plutôt très bien accueillis, donc c'est plutôt agréable. Ça veut dire qu'on peut continuer à imaginer d'autres améliorations et maintenant plus de l'animation de résidence que de résoudre que des problèmes d'incivilité ou autre. Quoi. Voilà.
Merci infiniment David Rosanvallon, merci Gabriel Rénal de nous avoir présenté donc ce projet, un beau projet, la réhabilitation de 10 résidences du patrimoine de famille et Provence dans le quartier du Jas de Bouffan à Aix-en-Provence.
La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.